VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, jour férié ce mardi à l'occasion de l'investiture du président Paul Biya pour un 7e mandat à la tête de l'État. Dans son discours devant les députés et les corps constitués rassemblés à l'Assemblée nationale à Yaoundé, le président Biya, 85 ans dont 36 au pouvoir, a reconnu ce qu'il a appelé les frustrations et les aspirations en zone anglophone frappées depuis un an par un conflit armé. C'est la première fois depuis le déclenchement des hostilités que le chef de l'État parle ouvertement des difficultés rencontrées par les habitants des zones anglophones où 79 élèves ont été enlevés lundi par des séparatistes. Le président Biya a promis qu'il y aura des réponses à cette situation en zone anglophone dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours, a-t-il souligné. Le chef de l'État s'est dit convaincu que l'écrasante majorité des Camerounais des régions anglophones aspire à retrouver rapidement la paix au sein de la communauté nationale. A noter par ailleurs que l'opposant camerounais Maurice Kamto vient d'être arrêté à Yaoundé alors qu'il s'adressait à ses militants aujourd'hui. Politique en République centrafricaine, la ministre française des Armées Florence Parly a mis en garde hier contre toute manipulation intéressée de puissance opportuniste en RCA. Une allusion à peine voilée à la Russie faite hier au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le point avec Nanit Talani.
Les violences intercommunautaires régulières nous rappellent que les équilibres restent fragiles dans ce pays. Dans ce contexte, toute manipulation intéressée de puissance opportuniste serait inepte, indigne, a déclaré Florence Parly en référence à l'influence grandissante de la Russie en RCA, sans toutefois la citer nommément. La France critique vivement la tentative russe d'engager des pourparlers de paix entre groupes armés concurrents aux efforts de l'Union africaine. Pour Florence Parly, il faut apporter tout le soutien à l'Union africaine pour préserver toutes les chances d'un règlement rapide et pacifique de la crise. Elle assure que tous les efforts internationaux sont bienvenus pour sécuriser la République centrafricaine, mais il faut que cela se fasse dans le respect des résolutions des Nations Unies et dans le respect de la médiation de l'Union africaine. Elle a martelé que toutes les autres initiatives opportunistes et souvent intéressées ne paraissent pas contribuer à résoudre de façon positive la situation sécuritaire dans ce pays.
Afrique de l'Ouest, maintenant, la Mauritanie a dénoncé hier la décision américaine de lui retirer le statut de partenaire commercial privilégié en Afrique. D'après Washington, c'est en raison de la persistance des pratiques de travail forcé et d'esclavage héréditaire. Le point avec Morgan Guiriec.
Cette décision est une trahison des relations d'amitié entre les deux pays et une négation de nos efforts dans le domaine de l'éradication des pratiques esclavagistes, a déploré sur Twitter Mohamed Ould Maham, porte-parole du gouvernement mauritanien. Monsieur Trump aurait-il pris cette décision s'il s'attendait à un contrat de vente d'armes de 110 milliards de dollars avec nous, a-t-il ajouté en référence aux commandes militaires saoudiennes évoquées par le président américain pour expliquer sa réticence à suspendre les ventes d'armes à Riyad après l'affaire Khashoggi. Ce retrait de la GOA sera effectif au 1er janvier prochain. Selon Washington, la Mauritanie n'a pas fait assez de progrès dans la lutte contre le travail forcé et l'esclavage héréditaire. L'esclavage a été officiellement aboli en 81 en Mauritanie. Le pays a adopté en août 2015 une loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. La portée de la décision américaine est essentiellement symbolique vu le faible volume des échanges entre les deux pays.
En Côte d'Ivoire, les agents des hôpitaux et centres de santé publique sont en grève pour 5 jours depuis hier pour réclamer de meilleurs salaires. Le point avec Raïssa Girondin.
Les 2/3 du personnel de santé, les infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, techniciens et agents administratifs sont en grève. Selon Sila Vazoumana, responsable de la communication de Cordis Santé, fédérant plusieurs syndicats, 9 centres de santé publique sur 10 sont touchés, dont les centres hospitaliers universitaires d'Abidjan et les grandes villes. Cependant, un service minimum était assuré pour les blocs opératoires et les salles d'accouchement. En revanche, les médecins n'ont pas appelé à la grève et étaient à leur poste de travail, selon Guillaume Essoac-Pessé, secrétaire général du premier syndicat de la profession. Les agents de santé réclament des augmentations de salaires et des primes, ainsi que l'amélioration de leur statut. La Côte d'Ivoire connaît depuis 2 ans des grèves fréquentes dans la fonction publique, principalement pour obtenir des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection à Madagascar, les Malgaches se préparent à élire demain mercredi leur prochain président. 36 candidats sont en lice, dont 3 anciens chefs de l'État. Ce pays, il faut le dire, a traversé plusieurs crises politico-militaires ces dernières années. Pour analyse, Morgan Guillac a joint le directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar, David Rajaon.
Peut-être que pour la première fois en Madagascar, il y aura une élection en bonne et due forme. Et bien évidemment, on espère qu'il y aura un président qui sera élu et que tout de suite après, il n'y aura pas encore une crise politique.
Justement, à quelques jours du vote, quelle est l'ambiance?
On craignait au début, en fait, que l'élection allait être reportée parce qu'il y a des candidats qui le réclamaient. On craignait également qu'on se verserait dans la violence. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout se passe normalement, une ambiance de campagne électorale avec des effets un peu festifs, mais également avec des échanges un peu virulents. Mais on a aussi remarqué que les candidats se pliaient au jeu démocratique, c'est-à-dire, entre autres, pour la première fois, il y a des passages de tous les candidats dans des débats télévisuels.
Vous êtes optimiste?
Optimiste en termes, je dirais, ce jeu démocratique, mais toujours est-il qu'il y a un risque de glissement vers une contestation électorale, tout simplement parce qu'il y a trop d'enjeux, je dirais, personnels autour de cette élection.
David Rajaon, directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar. Actualité aux États-Unis, les Américains se rendent aux urnes aujourd'hui pour des élections dites demi-mandat. Sur le terrain, les candidats démocrates et leurs adversaires républicains multiplient leurs efforts pour remporter ces élections, chacun de leur côté. Les précisions d'Irénée Herman Ongbo.
Le président américain Donald Trump a jeté toutes ses forces dans la bataille. Hier, il était à Cleveland, dans l'Ohio, Fort Wayne, à Indiana, puis à Cap Girardeau, dans le Missouri. Démocrates et républicains ont multiplié leurs appels à la mobilisation. Allez voter, a demandé Donald Trump lors de son 4e meeting dans le Tennessee. Son prédécesseur, démocrate Barack Obama, depuis Indiana, a indiqué de son côté que c'est l'âme même de notre pays qui est en jeu. Les démocrates qui espèrent prendre leur revanche sont donnés favoris pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que les républicains devraient conserver la majorité au Sénat. Les élections de mi-mandat traditionnellement n'ont jamais été favorables au président en place. Les démocrates sous Barack Obama avaient ainsi subi une cuissante défaite. La perte de la Chambre, malgré d'excellents chiffres de l'économie américaine, pourrait être un revers pour Donald Trump.
À ces élections de mi-mandat, la bataille est particulièrement féroce pour le contrôle du Congrès. Les démocrates veulent reconquérir le pouvoir législatif pour freiner l'agenda du président Trump, alors que les républicains sont déterminés à maintenir leur majorité au Sénat et à la Chambre des représentants pour continuer à soutenir la politique du chef de l'exécutif. Pour analyse, John Lindon a joint à Washington Brett Bruen, président du think tank Global Situation Room.
C'est un moment dans lequel le peuple américain va prendre une décision si la voie que le président Trump a choisie pour notre pays, c'est la voie correcte, ou bien est-ce qu'on devrait changer un peu vers une balance entre les républicains et les démocrates.
Alors justement, les républicains détiennent actuellement le Sénat et la Chambre des représentants. Quelles sont les chances des démocrates de récupérer l'une de ces chambres ou toutes les deux?
Bien sûr, nous avons eu l'expérience il y a 2 ans quand les sondages indiquaient que peut-être Hillary Clinton va gagner, mais cette fois-ci, les indications sont que les démocrates, au moins, vont prendre la Chambre des représentants. Et il y en a des gouverneurs qui pourraient changer. Pour le Sénat, c'est beaucoup plus difficile à cause du fait qu'il faut défendre beaucoup plus de membres de leur parti dans ces élections.
Brett Bruen, président du think tank Global Situation Room, ici à Washington. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.